Bonjour, shalom, assalam alaikum. Nous sommes le lundi 4 décembre 2023. Il sont 11h et nous saluons les milliers, les centaines de milliers d'auditeurs du club La Presse sur Canal FM Lomé ici, mais également sur les antennes des radios partenaires. Toute la chaîne de radio de Anejo à Dapan, Radio Lumière à Anejo, donc Radio La Paix à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Daoula Bassa, Radio Sama FM à Baganiamtougou, Radio Courtoisie à Dapan et par le monde entier, les radios numériques, Radio Le Bénin et Bénin Radio, l'application Canal FM et même la chaîne YouTube, ce qui fait que sur toute la planète Terre, cette émission est suivie. Nous remercions pour cela les techniciens qui réalisent l'émission, la mettent en ligne, Victor Bekoku, Michel Tominga et Jérôme Dakoucha. Nous remercions également les confrères co-animateurs, mais surtout c'est vous que nous remercions, vous les bienveillants auditeurs et auditrices. La pensée du jour qui nous guide aujourd'hui nous enseigne que le temps efface l'homme, mais ses œuvres rappellent son existence. Encore une fois, le temps efface l'homme, mais ses œuvres rappellent son existence. C'est signé William Sinclair. De quoi débattons-nous aujourd'hui? Nous allons nous réjouir pour Loïc Lawson et Anani Soussou qui viennent de retrouver la liberté depuis 4 jours, même s'ils demeurent sous contrôle judiciaire avec toutes les obligations. Nous allons également partager avec vous cette information de l'hôpital Dr Lafia qui se diversifie et se rapproche des populations, des patients éventuels. La lutte contre le terrorisme avec les vérités crues d'un acteur que nous allons partager avec vous. Et puis le Togo qui est présent à la COP28 à Dubaï. L'agenda que le Togo, le chef de l'État en personne, est allé défendre ou bien promouvoir à Dubaï. Nous allons en parler et nous allons également trouver le temps pour faire un clin d'œil à un fils de Tone, grand amateur de football, qui vient d'offrir un cadeau à son club qu'il dirige. Vers la fin de l'émission, vous saurez de qui il s'agit. Et puis cette émission que je co-anime aujourd'hui avec Yao Olivier Adja de Arakiri, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour à toutes les auditrices, à tous les auditeurs. Je veux saluer Monsieur David Tabou, un bon ami à moi, et Papa Akoli Johannes, qui est à Kégué.
David Tabou?
Oui.
Ça veut dire que rien n'est tabou pour lui?
J'espère.
Arim Yaou Tchanyao de Nouvelle Opinion, bonjour.
Je te salue Sas, je salue les Togolaises et les Togolais qui nous écoutent en ce moment. Et je souhaite une agréable semaine à chacun de nous.
Merci. Comme Didier Asogba de Togo Breaking News, bonjour.
Bonjour Sas et bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM et bonjour à mes aînés en studio.
Eh bien, c'est parti. Un quatrième confrère pourrait éventuellement nous rejoindre, mais assurons-nous de sa présence effective avant de vous dire de qui il s'agit. Premier sujet qui nous inspire ce petit carnet, liberté pour Loïc Lawson et Anani Soussou. Mais aussi, retour décent et digne au pays pour Monseigneur Podro. Depuis le vendredi 1er décembre, les confrères Loïc Lawson et Anani Soussou sont sortis de prison. Ils ont regagné leur famille, ils ont retrouvé leurs proches et amis, ils ont repris également leurs activités. Même si Loïc et Anani demeurent sous contrôle judiciaire avec des obligations illiées, nous, le club de la presse et l'ensemble de la corporation des journalistes, nous nous réjouissons de les savoir en liberté et nous souhaitons vivement qu'un règlement advienne au plus tôt, un règlement définitif et heureux, aussi bien pour les confrères Loïc Lawson et Anani Soussou que pour le ministre Kodjo Adeje. Mais en même temps, notre cœur saigne de vive douleur et de honte quand nous découvrons sur les réseaux sociaux des images avilissantes qui exposent Monseigneur Philippe Fanoko Podro prétendument avec ses effets dans un couloir d'hôtel ou quand d'autres images le livrent aux morsures du froid hivernal à Stockholm en Suède. De telles images de ce vieillard de plus de 93 ans, ce vieillard qui fut évêque du diocèse de Atakpamé, ce vieillard qui fut archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Kpodjuro qui présida la conférence nationale souveraine de 91, le même Kpodjuro qui a présidé le parlement de transition, le Haut Conseil de la République, entre les années 1991 et 1994, ces images avilissantes, disons-nous, qui n'honorent ni l'homme politique Gabriel Agbeyome Kodjo, pour le compte de qui Kpodjuro s'est engagé avec toute son énergie. Ces images n'honorent non plus l'Église catholique, dont Kpodjuro fut l'un, Kpodjuro est toujours le doyen dans l'épiscopat au Togo. Ces images n'honorent pas non plus l'État togolais, dont Mgr Kpodjuro fut l'un des plus hauts dignitaires sur la période 1991-1994. Aussi, pour la dignité du vieil homme, que pour l'honneur et la fierté de notre pays, le Togo, implorons-nous les membres de sa famille biologique, ses amis, le clergé de l'Église catholique du Togo jusqu'au Vatican et aussi les institutions de la République togolaise, le chef de l'État en tête, à s'employer sans retenue afin que Mgr Kpodjuro regagne la terre togolaise au plus tôt. Nous n'osons pas imaginer que Mgr Kpodjuro puisse mourir loin du Togo, loin de sa terre chérie du Togo, dans l'indignité. Que le bon Dieu Tout-Puissant Miséricordieux nous y aide avant que, pour que Mgr Kpodjuro puisse rentrer au pays avant la fin de l'année 2023, avant même la célébration de la fête de la maternité, de la nativité pour le monde chrétien, et pourquoi pas avant même le pèlerinage marial qui démarre à Covier le vendredi 8 décembre prochain, qui va se prolonger jusqu'au dimanche. Je rappelle que lorsque Kpodjuro fut archevêque de Lomé, que ce pèlerinage de Covier a été créé. Arim Yaour, bonjour.
Bonjour, Sass.
Alors, c'est deux sujets en un. Aussi, en même temps que nous nous réjouissons de la liberté qu'ont retrouvé Loïc Lawson et Anani Soussou, même s'ils demeurent sous contrôle judiciaire, notre cœur languit quand nous savons les conditions avilissantes qui sont faites à Mgr Kpodjuro en Suède.
Oui, pour les confrères Loïc Lawson et Anani Soussou, j'ai dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, parce que tout le temps qu'on s'est retrouvé ici, chacun de nous, même ceux qui ne sont pas concernés par la presse, ceux qui ne sont pas journalistes, tout le monde priait et souhaitait que les gens puissent s'entendre et qu'on puisse libérer leurs confrères. Aujourd'hui, ils ont regagné leur famille et les prières, les négociations, surtout la CNDH, au-devant, chacun se bat aujourd'hui pour que définitivement on passe cette histoire à l'oubli et que la vie revienne normale pour les confrères. Et je souhaite que rapidement le ministre d'État et tous ceux qui sont rentrés dans la danse, j'appelle encore la CNDH, qui a joué un très bon rôle, a continué par faire en sorte que on puisse totalement passer sous oubli cette histoire qui a créé des ennuis à nos confrères. Je voudrais également dire que et les organisations nationales et internationales, chacun, comme il le peut, a pu faire ce qu'il pourra, qu'il pouvait pour que le confrère soit aujourd'hui sorti de prison. Mais revenons à Kpodjuro. Je voulais dire que on ne peut pas défaire l'histoire de notre pays. Quoi qu'on dise, vous avez dans votre introduction par rapport à Kpodjuro dit beaucoup de choses. Et donc, le Togo ne peut pas, dans l'écriture de son histoire, effacer les responsabilités que cet évêque a pu occuper et tout ce qu'il a pu faire pour le Togo. Aujourd'hui, moi, je crois que le retour de Kpodjuro n'est qu'une question de volonté. Je ne crois pas comprendre que une fois au Togo, Mgr Kpodjuro pourra être arrêté et incarcéré quelque part. Pour moi, c'est une question de volonté. Et effectivement, vous avez interpellé tous les acteurs, l'Église, les Togolais, pourquoi pas vous et moi ici, le chef de l'État, le gouvernement, tout le monde. Pour moi, si Kpodjuro rentre au pays, oublions le passage politique qu'on a connu de lui tout récemment. Le Kpodjuro que nous connaissons, s'il rentre au pays, pour moi, il va être une question de lui réserver un accueil pour un retour triomphal, parce que pour moi, Podro ne peut pas, comme vous l'avez dit, personne ne le souhaiterait que Podro trépasse hors de nos frontières après tous les grands services rendus à la nation togolaise. Et si Podro nous entend, et tous ceux qui l'encadrent, tous ceux qui s'occupent de lui, s'ils l'entendent, qu'ils s'organisent eux-mêmes demain, le premier vol, ils atterrissent à Lomé, on va leur réserver un accueil très exceptionnel pour tout ce qu'on connaît de ce monsieur.
Merci Olivier, rebonjour.
Bonjour Sars.
Eh bien, ces deux sujets en un, en même temps que Loïc et Anani sont en liberté, nous souhaitons vivement que Podro puisse également regagner la mère patrie, regagner la chaleur physique et émotionnelle qui nous caractérise.
Oui, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qui est plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté? Je crois que devant toutes les richesses du monde, devant les trésors du monde, lorsque vous êtes privé de liberté, vous n'êtes pas heureux. Donc c'est une joie immense qui nous anime en tant que journalistes, professionnels des médias, et de voir nos deux confrères recouvrir enfin la liberté. Et nous leur souhaitons raison au milieu de leur famille, dans leur domicile, dans la chaleur familiale, qu'ils en profitent tant. Et maintenant, bon, nous prions que ce contrôle judiciaire, je crois, qui leur est imposé, puisse être levé au plus tôt, pour que, vous savez, je parle de liberté, il y a aussi la limitation des mouvements ou bien des déplacements qui peut aussi faire partie d'entraves à la liberté. D'accord? Donc, un journaliste qu'on empêche de sortir ou d'aller, de venir, c'est aussi une punition. Donc, nous prions que, à la deuxième étape de cette démarche du ministre, qu'on puisse les lever donc, ce contrôle et qu'ils puissent recouvrer totalement leur mouvement ou leur liberté d'aller, de revenir. Pour Monseigneur Podro, c'est malheureux. C'est malheureux parce que je dis que c'est un monument de notre pays. Il fait partie de l'histoire, hein, donc du Togo, et l'histoire sur tous les plans. Aujourd'hui, si on retrouve cette personne dans un pays très loin de sa terre natale, en train de vivre ce calvaire-là, c'est dommage. Vous savez, dans son périple, Podro, je crois qu'il a fait le Burkina Faso, le Bénin, le Ghana, avant de se... Ou quand il s'est retrouvé en Suède, il est revenu, il est passé par ces deux pays. Et ces pays, j'aurais plutôt aimé que si Podro était au Bénin, encore, ça aurait été mieux pour nous. Et vivement qu'il revienne, ce qui l'a éloigné n'est pas quelque chose de très grave, parce que Podro n'a pas d'action judiciaire ou de poursuite judiciaire contre sa personne. D'accord? Donc moi j'estime que c'est un exil volontaire, et cet exil volontaire-là est en train donc de lui causer des troubles. De deux, c'est que Podro appartient au Togo, mais appartient aussi à l'Église catholique universelle. Et moi, je suis étonné que cette personne, un archevêque, ancien archevêque de Lomé, ne puisse pas avoir du secours, quel que soit là où il est sur la planète Terre, soit de l'Église catholique, il y a même des institutions, et le secours catholique, je ne sais pas, et d'autres institutions qui peuvent lui venir en aide. Il y a aussi, les évêques du Togo qui veulent aussi voler à son secours. Podro aller jusqu'à manquer de toit ou s'abriter en hiver, je crois que soit je ne sais pas, j'ai du mal à croire à cette éventualité. Parce qu'il y a aussi des constituants togolais en Suède comme ailleurs qui peuvent lui venir en aide. Je me demande si c'est que les gens ont refusé de l'aider ou c'est lui-même qui refuse qu'on l'aide.
Merci. Alors, pour ce qui est de l'Église catholique que nous interpellons, je rappelle que Monseigneur Barriga a sorti une note en date du 30 novembre 2023, note dans laquelle Monseigneur Barriga demande à l'Église catholique de consacrer des prières spéciales pour Monseigneur Podro. Monseigneur Barriga rappelle que les évêques du Togo ont évoqué le cas de Monseigneur Podro et de leurs aînés aussi lors de leur dernière rencontre. Et Monseigneur Barriga révèle également que lorsque les évêques du Togo étaient dernièrement auprès du pape au Vatican, ils ont évoqué le cas Podro. C'est dire, Didier Assogba, que beaucoup de choses se font quand même et souhaitons vivement que toutes ces démarches se concluent par le retour de Koudrou au pays, tout comme nous prenons acte avec bonheur de la mise en liberté de Loïc et d'Anani Soussou.
D'abord, je salue la libération de nos confrères et aînés Loïc Lawson et Anani Soussou. J'ai pu constater la joie et le soulagement qui les a animés à leur sortir de prison. Hier même, j'ai eu à échanger quelques mots avec Loïc Lawson et j'ai apprécié son mental qui lui permet de pouvoir surmonter cette épreuve et de récupérer également après cette libération provisoire. Et donc, nous remercions Dieu d'avoir entendu nos prières et également les autorités qui ont agi, chacun en ce qui le concerne, pour qu'on arrive à ce résultat. On souhaite, comme les uns les autres l'ont dit, qu'on efface rapidement cette histoire-là et qu'on mette rapidement fin à cette action judiciaire qui n'honore personne, y compris le plaignant et les accusés. Et donc qu'on passe rapidement cette histoire-là derrière nous et que nos confrères recouvrent totalement leur liberté qui leur permettait donc de faire leur œuvre de journaliste. On sait que Loïc Lawson est président d'une association, donc il est appelé à bouger très souvent du pays. Notre confrère Anani Soussou également, il est revenu même au pays dernièrement avant que cette affaire. Donc lui aussi, il a de la famille hors du pays et tout. Et donc je pense que ça ne sert à rien de chercher à restreindre leur mouvement. On connaît leur famille, on connaît le travail qu'ils font. C'est pas des gens qui vont chercher à fuir le Togo, c'est des Togolais. Donc du coup, qu'on règle finalement cette affaire-là et qu'on passe à autre chose. Le cas Monseigneur Koudrou, oui, j'apprécie toutes les analyses, mais je pense que l'Église catholique est en train de faire ce qu'elle peut faire. La famille et d'autres personnes font ce qu'ils peuvent faire pour que l'archevêque Monseigneur Koudrou puisse regagner le pays. Mais j'estime que le départ du Togo de Monseigneur Koudrou est découlait d'une situation que tout le monde connaît. Et donc, même si officiellement il n'y a pas de poursuite judiciaire contre le prélat, il se dit n'être pas en sécurité, en lien avec ses prises d'opposition politique. Et quand il intervient et quand il se prononce lui-même sur cette situation, il ne parle pas que de lui, mais il parle également de son assistant, il parle d'autres personnes qui ont dû quitter le Togo en lien avec la situation que tout le monde connaît. Donc je pense qu'au-delà des efforts que les uns et les autres sont en train de faire, tant au niveau de la famille qu'au niveau de l'Église catholique, et qui des efforts qui peuvent même être répétés à l'international, je pense qu'il faut également poser le débat sous le prisme du politique et voir quelles sont les actions politiques qu'on entreprend pour véritablement déblayer le terrain, rassurer les uns les autres et rassurer surtout le vieillard de 93 ans pour qu'il puisse regagner tranquillement son domicile à Lomé. Et donc je pense que cela aura son intérêt pour chacun de nous. Le Togo, à mon avis, gagnerait à ce que cette histoire soit réglée, si c'est politique, qu'on le règle sur le plan d'un point de vue politique, pour permettre à l'archevêque de rentrer chez lui. Et je pense que c'est et l'État togolais qui gagne, et tout le monde et tous les Togolais qui gagnent, que cette affaire soit
réglée. Merci. Juste rappeler que Monseigneur Koudrou se retrouve dans son exil avec son assistant Marc Mondji. Et de l'autre personne également en exil, c'est
Abiyoumi Kodjo,
Gabriel et d'autres personnes. Alors, ce sujet, il y a cet article de Liberté paru aujourd'hui intitulé « Gouvernance inclusive de transition éthique, c'est tout le Togo qui gagne », entre autres les souhaits, amnistie générale, libération des prisonniers d'opinion, agir, des assises générales. Ça nous ramène à des demandes de la DMP, la dynamique de la majorité du peuple, la semaine dernière, qui demandait également le retour au pays des exilés et autres pour que le Togo entame les prochaines échéances dans toute l'inclusivité. Je l'annonçais, il nous a rejoint. Kodjovi Jean-Baptiste Artiste, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent à travers le monde.
Eh bien, tu es arrivé pendant que nous évoquons le cas de la mise en liberté de Loïc Anani d'un côté, le souhait pour le retour au pays de Monseigneur Podro de l'autre.
Justement, Sass, pour abonder en premier lieu, dans le même sens que mes confrères concernant la libération de nos deux confrères, et nous tenons quand même à saluer le fait qu'ils ont retrouvé leur liberté depuis vendredi dernier, le 1er décembre. Donc, nous le saluons. Mais moi, je reste toujours sur ma position selon laquelle nous, qui sommes hommes de médias, et surtout que nous avons des responsables d'organisations de presse, qui, pour moi, ne jouent pas bien leur partition en ce qui concerne les tests qui régissent notre corporation, notamment le code qui pose beaucoup, depuis plusieurs années, presque 3 ans dépassés déjà, ce code qui nous crée beaucoup de problèmes, mais que les responsables d'organisation ne jouent pas pleinement leur partition pour que cela puisse trouver une solution au niveau des législateurs. Mais et aussi, je dénonce par cette même occasion la duplicité de nos responsables d'organisation qui, ma foi, tiennent parfois des langages devant les micros, et puis hors micro, c'est un autre langage, un autre message qu'ils passent. Et moi, je crois que si nous devons nous tirer d'affaire en ce qui concerne les arrestations intempestives que nous subissons dans notre corporation, il va falloir que nos responsables d'organisation revoient leur langage, revoient leur copie, et pour que nous puissions d'une même voix aller à la révision de ce code qui nous crée tant de problèmes, et que justement nous devons faire en sorte, faire le lobby nécessaire pour que cela soit révisé, pour que nous
puissions à ce niveau, vraiment. Je ne voudrais nullement défendre les organisations de presse, mais je sais par expérience tous les efforts que toutes ces associations mènent pour éventuellement la réécriture du code de la presse. Mais je rappelle juste que il s'agit d'une loi qui a des limites, notamment le fameux article 497 du code pénal, dont les organisations souhaitent la réécriture. Ils y travaillent. Je pense qu'il faut les encourager à ce que leur lobbying et leur plaidoyer aboutissent, plutôt que de les attaquer entre confrères sur des plateaux, Jean-Baptiste.
Vous savez, ça, c'est...
Non, on ne va pas faire...
Bon. Oui,
vous savez que... Avançons, s'il te plaît, oui. Avançons.
Si, par exemple, nous voyons que ce qui...
Non, avançons, Jean-Baptiste. Tu as fait ton développement, j'ai quand même essayé de dire une partie de ce que les organisations font dans ce sens. Avançons maintenant.
Ok. Donc, je tiens quand même à partager toute ma compassion avec nos confrères qui ont finalement recouvré leur liberté. Et j'ai pu échanger avec l'un d'entre eux, et nous avons eu des échanges conviviaux, et je crois que pour l'avenir, chacun jouera sa partition, mais je continue de le dire, il faudrait que nous, en tant qu'homme de médias, nous parlions d'une seule et même voix.
Ouais, et tu l'as dit, avançons s'il te plaît, il y a d'autres sujets.
Revenons au cas de Monseigneur Podro, et c'est une situation que nous déplorons, parce que si vous avez une fois fait l'Europe, et en ce moment-ci, être hors de son toit, ce n'est pas une chose facile à supporter. Donc, l'Église catholique au Togo fait ce qui est de son devoir, mais je crois que elle doit aller au-delà, puisqu'ils ont commencé par, ils ont dit dans un communiqué précédent que des actions sont en train d'être menées pour que Monseigneur Podro revienne au Bercail. Nous les encourageons pour que leurs actions portent rapidement du fruit pour que Monseigneur Podro revienne au pays. Et concernant le fait qu'il soit en difficulté vis-à-vis du pouvoir en place, je crois que Monseigneur Podro est un homme, est un citoyen togolais et il a aussi le droit d'exprimer son opinion sur la politique togolaise. Et si son opinion politique va lui créer des problèmes, je crois que ça là, ça c'est à revoir. Parce que si on est dans un pays de droit, chaque citoyen a le droit d'exprimer son opinion, fût-ce telle contraire à ce que le pouvoir voudra.
Raison, mais à ce niveau également, lorsqu'il était reçu sur un plateau de radio il y a quelques semaines, quelques mois, le ministre Gilbert Bahora disait qu'il n'y a aucune plainte de qui que ce soit à l'encontre de Mgr Poudreau, et que c'est lui-même qui aurait choisi volontairement son exil. Mais comme Didier l'a dit, tout ça relève d'un contexte politique. Donc, j'ai évoqué par exemple le titre de Liberté. J'ai rappelé également la demande formulée par la DMP de Mme Adjamé Abou la semaine passée. C'est un ensemble de solutions qu'on doit trouver pour que le Togo soit plus inclusif, aussi bien politiquement que dans toutes nos dimensions social.
Ayons juste de l'orgueil national.
Plutôt de la fierté, de la volonté nationale.
Moi, je l'appelle orgueil. Chacun peut l'interpréter comme il veut. Un orgueil national qui permet de régler un certain nombre de problèmes qui clivent depuis des années. On pourra ramener Mgr Poudreau, le chef de l'État lui-même. Le gouvernement peut organiser ça. S'il décide, jusqu'à la fin de la semaine, c'est réglé. Donc je pense que c'est bien, le ministre Bahora l'a rappelé, je l'ai également rappelé ici, qu'officiellement, il n'y a aucune action judiciaire contre Mgr Poudreau. Mais nous connaissons tous le contexte et la politique est plus compliquée que ce que nous pensons, que ce que nous disons. Et donc si le gouvernement le décide aujourd'hui, ou le chef de l'État exprime sa volonté, jusqu'à la fin de la semaine, cette histoire est réglée. Et puis bon, on n'en parle plus.
En tout cas, nous avons interpellé toutes les bonnes volontés, la famille biologique de Mgr Poudreau, l'église catholique qui est sa famille religieuse. Nous avons interpellé également ses amis politiques. Parce que si Poudreau se retrouve là-bas, c'est suite à son engagement
politique.
Il faut que ses amis politiques également travaillent à la résolution du cas Poudreau, et puis également les institutions de la République.
Ouais.
Nous, les médias également, travaillons tous pour que nous ne soyons pas couverts de honte que Poudreau aura trépassé l'un de nos frontières. Si vous le souhaitez, nous voulons que nous évoluions avec le sujet numéro 2, l'hôpital Dr Lafière, qui continue à charrier beaucoup de commentaires. Nous l'avons attendu pendant un moment. Finalement, il est devenu réalité, inauguré par le chef de l'État depuis le 26 avril 2023, qui a ouvert ses portes pour offrir ses prestations. Les témoignages affluent déjà d'ici et là. Et puis, vendredi dernier, nous apprenons que l'hôpital Dr Lafia vient d'ouvrir une annexe au sein de la résidence du Bénin avec une extension. Sujet sur lequel reviennent deux journaux aujourd'hui. Harakiri d'abord. Harakiri, Olivier, le temps que je retrouve mes papiers. Harakiri qui met d'ailleurs ça à sa manchette, hôpital de référence. Une annexe de Dr Lafier dans la commune Golfe 3, pendant que Nouvelle Opinion également met ce sujet à sa manchette. Extension de soins de qualité aux populations. Dr Lafier ouvre une annexe dans le Golfe 3, plus précisément dans la résidence du Bénin.
Oui, tout à fait. Je crois que lorsque le projet de construction d'un hôpital de référence avait été lancé il y a quelques années, c'est à ces micros que nous sommes passés tout le temps pour émettre des critiques, pour émettre nos réserves, pour émettre nos doutes. Et le 26 avril 2023, nous avons vu inaugurer les bâtiments et toutes les installations de l'hôpital de référence, le tout premier d'ailleurs dans notre pays. Et ce fut le chef de l'État en personne avec les membres du gouvernement qui y étaient. Et là encore, nous sommes revenus porter des réserves et des doutes quant à ce qui va concerner le travail et les prestations qui seraient faites dans cet hôpital. Et finalement, les témoignages nous venaient de partout où les gens sortent de là très satisfaits des soins de qualité et haut standing qu'ils sont en train de recevoir là-bas. Et donc, les gens qui ont eu la bonne idée de nous construire cet hôpital ont vu qu'il faut étendre ou rapprocher l'hôpital des patients Et c'est ce qui a commencé par se faire parce que il y a un projet d'extension au niveau de Lomé, de Blita et de Kara. Et à quelques mois, seulement 7 mois seulement, nous avons vu pousser l'annexe de Lomé qui est logée au niveau de la cité Renaissance et dans le Golfe 3. Et il fallait aller également pour voir le standing et l'équipement qui est installé. Et je crois que le cadre d'abord permet parfois que le patient à moitié soit soigné. Parce que par rapport à ce que j'ai vu la dernière fois, je ne me suis pas encore fait soigner, mais j'ai vu l'équipement, j'ai vu les bâtiments, j'ai vu le confort qu'il y a là. Et avec les prix qu'on nous dit, je me dis que le cadre soigne à moitié avant que n'interviennent les techniciens, que n'interviennent tous ceux qui font. Donc, je voulais encourager et féliciter la Caisse nationale de sécurité sociale avec à sa tête Mme Ingrid Awade, qui tout le temps est inspirée, je ne sais comment, elle réfléchit et trouve les bonnes formules pour nous donner l'exactitude de ce que nous avons besoin. Et je crois qu'il faut qu'il y ait de ces idées pour que le Togo trouve à quelques endroits que près ce qui est bien pour lui. Et je me dis que rapidement, on va aller aux annexes de Blita et sûrement de Kara et pourquoi pas au niveau de tous les chefs-lieux de nos régions parce que le Togo a besoin de se soigner à tout niveau et le développement passe aussi par une parfaite santé.
Merci Olivier Adja. Toi également qui traites cette information dans ton journal, juste rappeler que cette annexe de l'hôpital Lafia offre des prestations. C'est un hôpital de niveau 4, hein, donc des soins pointus avec du personnel trié sur le volet, du matériel également de pointe. Mais l'autre information également, puis on a craint que l'hôpital Dr Lafayette pratiquerait des prix qui seraient hors de la portée du Togolais moyen. Or, ce qu'on découvre, c'est que les prix des prestations et des analyses sont fixés par l'Ordre national des médecins du Togo. Et à ce qu'il paraît, c'est des prix qui sont déjà en service dans les autres cliniques privées du pays.
Oui, je crois que c'est quelque chose à saluer, puisque c'est un hôpital de référence. Nous, en tant que citoyens, on s'était dit que ce ne serait pas à la portée, donc dit citoyen lambda. Mais ce n'est pas le cas, forcément. Aujourd'hui, cet hôpital a fait la fierté du Togo, Dr Lafia à Agoué, et qui a été inauguré il y a quelques mois.
Le 26 avril
dernier. Et hier ou vendredi passé, je vais dire, son annexe a été inaugurée au niveau donc de la cité Renaissance, cette cité qui est en train d'être construite au niveau donc de la cité OUA, si je peux me répéter. Et en réalité, selon les initiateurs, je crois que c'est plutôt la Caisse nationale de sécurité sociale.
La cité Renaissance, c'est un peu le prolongement à la fois de la résidence du Bénin et de la cité OUA.
Absolument. Et donc, l'hôpital, la construction de cet hôpital est pilotée par la Caisse nationale de sécurité sociale, qui est en partenariat avec le patronat togolais pour rapprocher, selon ce qui a été dit, les soins de qualité des populations. Et vous avez plusieurs soins ou plusieurs en tout cas il y a plusieurs prises en charge, je veux dire ainsi. Là-bas vous aurez donc les soins dentaires et d'autres comme la médecine générale. Vous avez aussi des équipements de pointe.
Il y a aussi l'ophtalmologie.
Voilà l'ophtalmologie. Vous avez des équipements de pointe qui s'y trouvent. Et ce qu'il faut noter, c'est que on nous a informé ou en tout cas annoncé que les prises en charge ou plutôt les hospitalisations ne se feront pas forcément là-bas ou ne se feront pas encore
à l'annexe
bien sûr, mais c'est les traitements qui vont être donnés donc pour le moment. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut saluer parce qu'il y a de cela quelques mois nous disions ici que le Togo manque d'hôpital ou de structures de soins de renom. Ok, de Lomé à Saint-Cassé, il y a certains pour bien se soigner sont obligés de sortir du Togo ou d'aller vers le Ghana ou nos pays voisins. Aujourd'hui, peut-être que c'est le contraire qui va se passer. C'est les citoyens des autres pays qui vont maintenant venir vers le Togo pour avoir les soins. Donc, c'est quelque chose à encourager Maintenant, on l'a déjà dit, mais il faut le répéter, c'est que les Togolais, nous-mêmes, en tant que citoyens, on soit sevrés ou privés de ces soins à cause peut-être des difficultés ou du budget qui est pratiqué, mais que nous aussi, nous puissions bénéficier de cela.
Merci. Alors, d'après ce qui se dit avec l'hôpital d'Afia, l'hôpital central et ses annexes, le Togo va devoir faire de l'économie dans les évacuations. Certaines pathologies pour lesquelles on évacuait X ou Y, ces pathologies pourraient être maintenant traitées sur place et nous y gagnerions. Jean-Baptiste, comme je l'ai dit en annonçant le sujet, dès qu'on parle de l'hôpital Dr Lafia, c'est beaucoup de commentaires des plus optimistes au plus critique. Je ne sais pas dans quel angle toi tu te situes.
C'est le plus optimiste, je le connais. C'est quelqu'un de très optimiste.
Jean-Baptiste ?
Non, vous savez, nous devons être réalistes face à la situation dans laquelle se trouvent nos concitoyens face aux prestations des centres de santé.
Oui.
Depuis plusieurs années, nous décrions ce qui se...
Nous en débattons au jour le jour. Le débat porte sur l'hôpital Dr Lafia.
Vous savez, comme l'a dit notre confrère, moi je ne suis pas allé à cette inauguration.
Pas encore.
Mais bon, c'est pas si réellement ce qu'ils sont en train de dire est vrai. Ah ben. Mais c'est que généralement, les commentaires qui nous parviennent en ce qui concerne cet hôpital ne sont pas vraiment du tout encourageant en termes d'accessibilité.
Commentaire de quelle source, s'il te plaît?
Bien sûr, de ceux qui ont eu quand même à...
Les patients qui ont
fait des tours là-bas. Et puisque les prestations, les coûts, bon, ne sont pas aussi à la portée de main. Parce que
non, comme je l'ai dit, les prix des prestations ont été fixés par l'Ordre national des médecins.
Il faudrait que moi,
ce qui paraît, c'est les prestations qui sont déjà coûts dans les cliniques privées.
Ça, je dois quand même voir la note de l'Ordre des médecins qui réglemente cela et m'assurer justement que justement c'est ce prix-là.
Alors là, naturellement.
Okay, parce que pourquoi je le dis, parce que ceux qui ont fait des tours là-bas, ils me disent que bon, c'est un centre qui est vraiment réservé au pacha et donc pas à portée de main. Donc si bon, nos confrères le disent que bon, c'est à portée de main, il faudrait que moi-même je fasse un tour là-bas, m'enquérir pour pouvoir bien informer les auditeurs en ce qui concerne les prestations. Sinon, ce que moi j'ai eu à dire à propos de ça, ce n'est pas ce qu'ils racontent ici ce matin.
Merci beaucoup. Et bien Didier Assogba, dans ce débat de l'hôpital Dr Lafia.
Docteur Lafia, enfin, c'est vrai, j'ai pas été associé, donc je ne maîtrise pas cette annexe de l'hôpital, donc je peux pas faire des commentaires, je sais pas, dans l'un comme dans l'autre sens. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est que nous allons à l'assurance maladie universelle dans le pays, et donc au-delà de ce que fait ce que font les promoteurs de Docteur Lafia, que je salue naturellement. Il va falloir que le gouvernement prenne son bâton de pèlerin lui-même et que, au-delà des initiatives privées ici et là, que l'État togolais assume ses responsabilités et que le système sanitaire du pays soit un système assez performant et que le Togolais puisse se soigner même dans les unités de soins périphériques, dans les centres médicaux sociaux, dans les quartiers et jusqu'aux hôpitaux à divers niveaux pour que ceux qui ont les moyens puissent aller à Dr Lafia ou ailleurs dans d'autres cliniques, et que ceux qui n'ont pas les moyens, mais qui ont également droit aux soins de santé et à de bonnes prestations des médecins, puissent aller dans les centres publics, dans les hôpitaux publics, pour être soignés et bénéficier des mêmes qualités de soins. Donc, comme on dit généralement dans ce milieu-là, que le plateau technique soit relevé, que plus de médecins soient formés et soient envoyés dans les hôpitaux, et que pour de simples morsures de serpents, des Togolais ne meurent pas dans des milieux comme, vous savez, Sotoubois, Blita et tout, et que pour de simples interventions qu'on peut faire dans les hôpitaux à l'intérieur du pays et dans n'importe quelle localité du Togo, que des gens meurent facilement. Donc, ma foi, je salue ce que fait Dr Lafia, mais je souhaiterais que au niveau du gouvernement lui-même, et un peu comme pour être en harmonie avec sa politique de l'assurance maladie universelle qui naturellement prend effet à partir du 1er janvier 2024.
Dans quelques semaines.
Dans quelques, sinon deux, trois semaines, que naturellement les hôpitaux publics également soient relevés, que leur niveau soit relevé, que les prestations soient de qualité, que l'accueil également soit amélioré, pour que, oui, ceux qui ont les moyens, je l'ai déjà dit, aillent à Dr Lafia ou ailleurs, mais que ceux qui ont les moyens de tous les jours et qui peuvent bénéficier également de l'AMU puissent aller dans les hôpitaux publics et bénéficier de la même qualité de soins et du même standing. Moi, ce sera ce
que pertinent. L'hôpital Dr Lafia de niveau 4, un haut sommet du plateau technique ici, mais c'est bien, mais c'est encore mieux si nous avons le tissu depuis les unités de soins périphériques. Ouais. Niveau 1, niveau 2, que nous appelions par le passé dispensaire ou CMS, il faudra que l'État émaille tout le territoire de tous les centres de soins, de niveau 1, niveau 2, niveau 3, avant qu'on aille au niveau 4. Et puis, quand on parle de cet hôpital, c'est beaucoup de questions. Un auditeur vient de m'envoyer un message. Est-ce que Dr Lafia est un hôpital public ou privé? Je rappelle juste à mon niveau de connaissance que l'idée est venue du chef de l'État, c'est la Caisse nationale de sécurité publique, Caisse nationale de sécurité sociale qui a commencé, mais entre-temps, il y a eu ouverture de capital. Nous en avons débattu à ce plateau. Il y a eu ouverture de capital de l'hôpital Dr Lafia. Il y a un conseil d'administration qui gère l'hôpital avec le public et le privé. Mais comme c'est une question vraiment, vraiment délicate, vous allez nous aider à approcher les responsables de l'hôpital Dr Lafia, à qui nous prêterions volontiers le plateau pour qu'ils nous disent le statut public ou privé, ce qu'il en est exactement pour les compatriotes, également les prix. Donc des gens comme Jean-Baptiste continuent à douter que les responsables de l'hôpital viennent nous en parler eux-mêmes de leur propre voix. Harry Miaou?
Non, bon, je crois que c'est de bonne guerre si vraiment le plateau se prêtait à ce que les gens viennent édifier la lanterne de tout un chacun, parce que autour de cet hôpital, il y avait beaucoup de choses, je l'ai dit, mais à la fin, moi, je suis allé à Dr Lafia Mère, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu d'ailleurs qu'il y a l'intelligence artificielle qui est pratiquée déjà là-bas et qui permet de donner
compte. Il y a des robots.
Des robots qui interviennent directement. Donc ça veut dire que aujourd'hui, quand vous allez même en Occident et un peu partout, il y a l'intelligence artificielle qui intervient. Et si nous l'avons déjà ici, ça veut dire qu'à un point donné, il y a quelque chose de spécial qui se fait là-bas. Mais au-delà, je voulais même parler de la cité Renaissance. Et quand on construisait toujours cette cité, nous avions tout le temps dit qu'on s'en doute si les gens pouvaient aller prendre cette cité-là. La dernière fois, j'ai été émerveillé à apprendre que c'était d'ailleurs à la fondation que les gens venaient acheter. Le Togo, nous le disions, a besoin d'être construit. Et s'il y a des idées comme celle-ci qui génèrent et qui font que le Togo s'éclate en beauté, ça fait la fierté avant tout. Mais je voudrais aussi profiter de ce micro pour dire aux responsables de la Caisse de Sécurité Sociale qu'au-delà du grand standing qui a été fait au niveau de la cité Renaissance, il faut penser aussi aux logements sociaux. Je sais que l'État a un projet dans ce sens. Mais si on peut aussi faire le bas standing pour que les petits fonctionnaires, les fonctionnaires lambda, ceux-là qui n'ont pas une grosse bourse, qu'ils puissent aussi aller s'enquérir de ces petites villas, ce serait aussi une très bonne chose. Et je me dis que quelque part, on serait en train d'y penser pendant que je l'ai dit. Il faut le faire. Mais je reviens pour dire que les régions, tous les chefs-lieux de nos régions ont besoin de prototypes de Dr Lafia. Et si la Caisse peut le faire, si ce conglomérat de sociétés ou d'associations qui gèrent les Dr Lafia que nous sommes en train de voir pousser peut le faire, ce serait salutaire pour l'ensemble des citoyens.
Merci vivement.
Est-ce que la cité est une cité publique et du gouvernement?
Je ne crois pas. C'est pour cela que j'ai dit que
la cité
Renaissance est une initiative de la CNSS, ça veut dire que Dr Lafia n'est pas un hôpital officiel. Donc on ne va pas aller.
Non, je l'ai dit.
On n'a pas dit ça.
Oui. J'ai déjà annoncé. Nous allons y revenir avec les personnes appropriées qui viendront nous dire de leur propre bouche le statut réel de l'hôpital et également les prix des prestations qui sont offertes. Maintenant, nous allons continuer avec la lutte contre le terrorisme. C'est une réalité qui nous crée des problèmes. Et vous rappelez que le 25 novembre dernier, il s'est tenu un colloque avec des universitaires, et d'autres acteurs sociaux, avec des délégués venus du Togo, des pays voisins, le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, etc. Mais nous y revenons aujourd'hui parce que c'est le confrère Togo Réveil qui nous fait revisiter les propos tout crus de quelqu'un qui était à ce colloque-là, c'est Kossi Agbenyenga Aboka. Vous savez que Aboka a sa façon de dire les choses. Alors pour lui, pour Aboka, il ne faut pas aller chercher loin la définition du terrorisme. Je le cite, pour Aboka, c'est le terrorisme dont nous sommes victimes en Afrique est causé par les Occidentaux. Parce que comme nos pays ne veulent plus se laisser piller pour nos ressources, les Occidentaux ont dû inventer ce terrorisme-là pour continuer à brader nos ressources. Et puis pour lui, la solution contre cette malveillance de l'Occident, c'est que les Africains s'unissent et trouvent des solutions adéquates, appropriées entre eux-mêmes et avec une communication adéquate. L'opinion publique sera bien informée de la problématique du terrorisme et la façon dont les Togolais, disons les Africains, devront lutter contre, dans l'union, la solidarité. L'article est paru aujourd'hui, enfin depuis vendredi, à la page 4 de Togo Réveil. Sûrement d'autres confrères l'ont traité. Ça nous intéresse pour vous. Harry Miaou ?
Non, mais je voulais dire que la vision du maire Kossi Aboka est une très bonne vision. Mais au-delà, il faut dire qu'il y a un adage chez nous qui dit que quand vous n'avez pas un sorcier chez vous à la maison, les sorciers ne peuvent pas vous attaquer, même les voleurs. Ils ont toujours des béquilles sur lesquelles ils chauffent. Et parlant du terrorisme, vous allez constater que dans tous les pays où le terrorisme a fleuri, a pris des proportions inquiétantes, il y a toujours de ces taupes qui sont dans les pays concernés et qui jouent avec ce que, entre griffes, le maire est en train d'accuser. Il parle de l'Occident, mais l'Occident ne saute pas de lui-même pour venir faire. Ça veut dire qu'il y a des combinaisons, des complices, des tentacules qui sont sur le territoire concerné et qui jouent. Nous avons vu la question au niveau du Mali, nous avons vu un peu au Niger, nous voyons un peu avec le Burkina, et je vois que l'Africain également, s'il veut lutter efficacement contre le terrorisme, doit comprendre que, avant tout, je suis identitaire à quelque chose. Il faut que chaque pays africain, chaque responsable, ceux qui sont engagés dans tout, que chacun ait cette fierté identitaire et que chacun puisse dire que non au bradage de nos ressources, non à tel et non à tel. Et en ce point, on peut efficacement vaincre ce terrorisme.
Merci. Parce que le Blanc a justement parlé au cours de sa conférence quand il a cité, quand il disait que les Blancs ont développé cette tactique-là, do the job, I'll pay you. Et il fait référence à cette tactique des Blancs, des étrangers, qui surfent sur la cupidité de certains Africains pour leur confier les basses besognes de lavage de cerveau à des compatriotes, de jouer à l'apologie des pratiques néocolonialistes, un crime contre l'humanité. D'ailleurs, on le voit, quand les terroristes sévissent au Burkina, au Mali et au Niger, mais c'est des Africains qui jouent aux terroristes. C'est des Africains que les terroristes arment contre leur propre pays. Mais en amont, on pourra dire qu'également, ces jeunes se laisseraient facilement recruter sur la base des frustrations, des injustices créées par la gouvernance, pour dire que il faut que nos pays revoient une gouvernance vraiment inclusive qui prenne en compte tous leurs concitoyens, leurs compatriotes. Et comme quelqu'un l'a paraphrasé, Didier Assogba, sur mon regard, quand quelqu'un dit que personne ne sera laissé sur le carreau, tu suis mon regard.
Oui,
il faudra que la gouvernance fasse effectivement que personne ne soit laissé sur le carreau pour s'offrir en proie à ces terroristes-là.
Naturellement, mais on pourra commenter cette sortie du maire Aboka en prêtant quelques phrases à une chanson ou à un hymne que tout le monde connaît ici, écartons tout mauvais esprit qui gêne l'unité nationale. Et quand on finira par dire, quand nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre. Naturellement, si le terrorisme prospère sur nos terres en Afrique ici, c'est naturellement parce que l'ennemi ou les blancs savent exploiter notre division en interne et savent exploiter les esprits disparates ici et là comme des situations de frustration, tu l'as bien précisé. On ne va pas aller dans les détails, mais quand les gens n'ont pas des solutions à leurs problèmes et des gens pensent qu'ils sont laissés naturellement sur le carreau et que eux et d'autres sont privilégiés par rapport à eux, ils se prêtent facilement à ces jeux-là. Tu l'as si bien dit, quand au niveau du Burkina, ceux qui attaquent le Burkina sont, la plupart sont des Burkinabés. Ceux qui font des attaques terroristes au niveau du Mali, la plupart sont également des Maliens. Et au niveau du Niger, c'est la même chose. Chez nous, c'est un peu très compliqué pour le moment d'aller dans les détails et dans les précisions. Mais y est-il que ce sont toujours des Africains qui attaquent d'autres Africains, leur donnent gratuitement la mort comme ça. Donc, parce que notre ennemi de l'extérieur a trouvé des alliés en interne et qui ont également leurs raisons pour se lever contre l'État central et se donnent à ces actions. Donc, je pense que ce que le maire Aboka dit, c'est clair, tout le monde sait que si le terrorisme prospère, c'est parce que les Occidentaux l'entretiennent. Et ça, ce n'est plus un mystère pour qui que ce soit. On ne peut pas avoir des terroristes. Un chef d'État a dit, même s'il n'est plus chef d'État, a dit que les terroristes sont plus armés que les armées. Donc, ça ne peut pas avoir de sens que des terroristes soient plus armés que les armées, que les armées nationales. Ça n'a pas de sens. Et donc, si ça a pu avoir lieu, c'est parce que, entre-temps, les puissances qui fabriquent les armes sont derrière les terroristes. Et ça, c'est clair dessus. Ce n'est pas du panafricanisme pur dur, mais c'est de la réalité. Donc, aujourd'hui, au-delà des actions militaires qui se font et de cette réalité connue de tous, il faut également que la gouvernance, comme tu l'as dit, soit inclusive et que tous les Togolais, enfin, je parle chez nous ici, que tous les Togolais se sentent concernés par la gouvernance, que les gens ne soient plus pas victimes d'où ils viennent, d'où ils sont nés, les gens ne soient pas victimes de leur nom lors des concours et lors d'autres actions nationales.
Ça de leur militantisme politique.
Oui, de leur militantisme politique et de leur prise de position. Quelqu'un parlait d'opinion politique et tout ça. Et donc, on ne prête pas des intentions aux gens comme ça pour les laisser de carreau. Ça pourrait être, ça pourrait préparer le terreau fertile pour le terrorisme qui se développe.
Merci beaucoup, Olivier, Jean-Baptiste. Je ne sais pas si vous souhaitez intervenir sur ce sujet ou bien si nous pouvons avancer.
Non, je crois que nos confrères ont dit l'essentiel. Le terrorisme, en réalité, d'abord, c'est nous-mêmes qui le créons, avant tout, à travers notre manière de gouverner, à travers les différences que nous entretenons, à travers les frustrations que nous créons, à travers donc la pauvreté que nous n'arrivons pas à combattre, à travers tout cela, nous faisons le lit du terrorisme. Le chef de l'État l'a dit, si nous n'arrivons pas à lutter contre la pauvreté, à lutter contre, je sais pas, l'analphabétisme, à lutter contre un certain nombre de problèmes, les terroristes auront un vivier où ils pourront aller puiser des bras valides pour combattre les pays. D'accord. Donc, maintenant, oui, il y a l'extérieur qui entretient cela à travers les financements, à travers ce que nous savions. Oh, il y a quelques mois ou quelques années, nous doutions que ce phénomène était entretenu de l'extérieur. Mais aujourd'hui, nous avons assez d'éléments pour dire que les terroristes ont des soutiens et c'est pourquoi ils arrivent à faire cela. Mais c'est-à-dire, nous sommes tellement divisés. Regardez la carte de l'Afrique. C'est le continent le plus balkanisé au monde. Donc c'est divisé et chacun entretient cela. La fierté nationale faisant plutôt, il y a l'Azawad qui veut encore ajouter au 53, au 54, au 56. Et donc de l'Afrique, il y a d'autres pays. Et puis l'Occident entretient cela parce que quand vous voyez le Soudan du Sud, qui est le dernier État à naître sur le continent, c'est les États-Unis qui ont donné leur bénédiction. Donc voilà, mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt faire le contraire, aller vers les unions pour être plus fortes? Et nous n'arrivons pas à mettre ensemble nos énergies pour combattre le terrorisme. Vous avez le Mali, le Burkina et le Niger aujourd'hui qui ont démontré que, ensemble, on peut être plus fort que les autres. Mm-hmm. Il y a Takuba, il y a Barkhane, il y a quoi, tout, les Occidentaux ont envoyé toute leur armée au Mali pendant 10 ans. Ils n'ont pas pu combattre le terrorisme, ils n'ont pas pu remporter de victoires sur les terroristes. Mais en moins d'une année, nous voyons les victoires qui sont remportées par l'AES. Donc voilà les exemples patents que nous devons suivre.
Encore une fois, la preuve que quand on est unis, et on peut faire fort. De grandes choses et on peut aller plus loin. Jean-Baptiste, il nous reste 3-4 minutes. Je voudrais plutôt que tu partages avec nous quelques titres de ton média.
Oui, mais avant...
Il y a juste 3-4 minutes.
Oui, hein? Oui, okay. Je n'en disconviens pas. Avant que je n'aborde ce sujet, je voudrais quand même ajouter à tout ce que les confrères viennent de dire concernant le terrorisme que je me rappelle, en début d'année, le pape François avait dit, je le cite, que la paix ne tombe pas du ciel, mais elle se prépare, elle se cultive. Alors, nous, êtres humains, nous devons cultiver, nous devons être des acteurs de paix. Et être acteurs de paix, c'est à travers ce que nous faisons au quotidien. Mm-hmm. Si les gouvernants, depuis leur sommet, cherchent réellement la paix, alors il faut qu'ils posent des actes allant réellement à la paix.
Dans ce sens.
Dans tous les sens, il faudrait que tous ceux qui veulent réellement la paix dans ce monde-là, il faudrait qu'ils soient des acteurs de la paix, des artisans de la paix.
Merci.
Maintenant, c'est ce que je vais ajouter. Maintenant, revenant sur les nouvelles concernant notre site, corpsdiplomatiquenews.tg. Alors, il y a un article qui parle justement du lancement vendredi dernier d'une mission du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, qui ce mécanisme auquel le Togo a adhéré depuis juin 2008, et depuis pratiquement 15 ans, le Togo ne s'est pas fait évaluer. Donc maintenant, c'est chose qui sera bientôt faite, parce que il y a une délégation africaine composée de beaucoup de nationalités qui sont arrivées dans notre pays, mmh. Et le lancement officiel de cette mission d'évaluation qui va porter sur les résiliences urbaines, c'est-à-dire comment est-ce que les populations urbaines arrivent à être résilientes face aux catastrophes naturelles. Mmh. Donc cette mission qui séjourne maintenant dans notre pays pour 2 semaines, et après cette mission, il y aura un rapport qui sera soumis au chef de l'État, peut-être au courant de février 2024. Donc, c'est cette mission-là qui fait actuellement le travail.
Le Togo se fait évaluer dans le cadre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP.
Justement.
Ensuite, le deuxième
sujet. Maintenant,
le
deuxième sujet concerne la sempiternelle crise qui secoue le comité d'action pour le CAR. Pour le renouveau, pardon. CAR qui, le feuilleton qui a commencé depuis avril 2023, avril dernier, avec les congrès, le premier congrès qui a abouti à la mise en place d'un bureau de transition, et ce bureau qui est là, et puis un mois plus tard, certains militants encore se sont retrouvés pour faire un second congrès.
Vous faites la deuxième partie du premier congrès,
comme ils disent,
à l'issue de laquelle ils se sont dit dotés d'un bureau national.
D'un bureau national, et maintenant, ça a fait que le parti est maintenant divisé en deux parties. En deux factions, si on peut le dire ainsi. Et la quintessence, c'est que depuis septembre, il y avait l'autre parti, le premier parti dirigé par Nador, qui a assigné.
Disons, ceux qui disent qu'ils sont la transition.
Oui, le bureau de transition a assigné les autres, le camp de Daté, consort en justice, en ce qui concerne auprès du juge des référés, et entre-temps, le juge des référés s'est dessaisi parce que ce jugeant incompétent pour connaître de l'affaire, compte tenu des divergences profondes que les deux camps affichent. Mm-hmm. Et donc, maintenant, le sujet est porté devant le juge de fond. Mm-hmm. C'est-à-dire que le problème doit être jugé maintenant à la grande salle du tribunal de Lomé. Et donc, mardi dernier, donc le 28 novembre passé, il y avait un appel, le juge avait appelé le dossier à l'audience, mais il s'est fait que, selon les informations que nous avons, le camp Daté ne se serait pas présenté ni représenté face à l'appel du juge.
Oui.
Et le sujet est encore renvoyé au 23 janvier prochain. Et donc, c'est ça le feuilleton qui continue d'être. Dans
merci. Le camp, mais entre-temps, le camp daté ne s'ennuie pas. Parce que nous apprenons qu'aujourd'hui même, il y a une rencontre politique entre le CAR, présidé par Daté, et d'autres partis comme la CPP et le MCD de M. Tchassouna, pour dire que ça continue.
Le
et au jour le jour, nous vous en librerons les évolutions. Nous allons terminer par la COP 28, qui a démarré depuis déjà une semaine à Dubaï. Et le chef de l'État s'y trouve avec à la tête d'une grande délégation. Revue de presse rapidement avec Nouvelle Opinion qui nous parle de l'engagement de Faure Gnassingbé dans la transition énergétique du Togo. Harakiri qui en parle lui aussi à la page 3. Faure Gnassingbé qui se livre à fond dans la promotion des énergies renouvelables pendant que Togo Matin nous en parle aussi. Le Togo qui reste engagé pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. L'objectif des autorités togolaises, c'est de renforcer significativement la résilience des communautés, des écosystèmes et d'anticiper les crises futures en harmonie avec la feuille de route gouvernementale Togo 2025 et les engagements climatiques pris conformément à l'accord de Paris. Et dans ce sens, le Togo et la MEA PAWA qui viennent de s'accorder sur une nouvelle extension de la centrale de Blita, cette centrale solaire qui a déjà une capacité de 70 MW, va être complétée par 30 MW supplémentaires, ce qui va porter toute la capacité de production à 100 MW. Et ceci, ce sera pour le bien des populations du centre et du nord du Togo. Il est midi, parce que 3 minutes, on ne pourra pas en débattre, mais nous allons à la pause, le temps que Michel adresse le clin d'œil à nos partenaires, puis nous continuons avec les auditeurs.
13.5 Canal FM.
Eh bien, c'est parti. Vous nous avez écouté débattre du cas de nos confrères Loïc Lawson et Anani Soussou, du cas de Monseigneur Poudro. Et puis, nous sommes allés vers l'hôpital Dr Lafia avec son annexe. Et puis, on a fini avec ces sujets divers. À présent, la parole est à vous.
Oui, Sars, bonjour.
Bonjour.
C'est l'évangéliste Senghor.
Nous vous écoutons, Monsieur Senghor.
Comment vous portez?
Nous rendons grâce.
Amen. Bon, je voudrais m'intéresser un peu à la libération de vos confrères.
Oui.
Ça, c'est une bonne chose. Mais il faut que vous sachiez que ça, c'est un pardon à moitié. Vous savez, je parle en tant qu'un évangéliste qui va directement avec mon confrère le plaignant. Parce que nous, notre Bible nous dit, si tu veux pardonner, il faut pardonner totalement. Si on dit aujourd'hui que vos deux confrères plutôt, sont en quoi judiciaire là,
si vous avez. Ils sont sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'on leur a retiré leur passeport et tous les lundis, ils doivent faire acte de présence devant le juge.
Leurs libertés sont privées.
Mais l'ami Senghor, parlez directement à votre confrère évangéliste pour qu'il retire sa plainte et puis cette affaire sera close.
Normalement, ça veut dire qu'il doit pardonner.
Mais allez vers votre confrère évangéliste.
S'il vous plaît, ça.
Oui.
La Bible nous dit, quand tu veux pardonner en tant qu'un chrétien, pardonner, tu oublies. Il ne faut pas que vraiment le soleil se couche sur ta colère.
Je vous comprends. C'est pourquoi je trouve que c'est bien que vous.
Mais aujourd'hui, les jeunes, par exemple, ou les journalistes, peut-être qu'il a une branche à Cara chez moi, ou bien après pour aller payer quelque chose. On lui dit qu'il ne va pas voyager. Mais ça, il y a une compréhension à ça. J'interpelle mon frère à DJ, s'il vous plaît, qu'il revienne en arrière, pour dire, mes frères, je vous pardonne, un point bas.
Merci beaucoup. Je vous souhaite d'aller le voir, et comme ça, entre évangélistes, vous allez parler de ça en prenant Jésus à témoin. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
C'est Pierre.
Pierre.
J'appelle de Vaughan.
De Vaughan.
Oui.
Ah, il y a des pierres à Vaughan.
Oui, il y a des pierres, de vraies pierres. Hein.
Ah, de vraies pierres.
Oui.
Sur qui quelqu'un a bâti son église.
Oui, je suis là.
Très bien, nous vous écoutons, l'ami Pierre.
Oui, je voudrais parler de la Caisse nationale de sécurité sociale.
Oui.
Il y a certains retraités qui sont là, qui sont en dessous du SMIG.
Oui.
Qui prennent une pension en dessous du SMIG.
Oui.
Mais l'argent que la Caisse va injecter dans la construction de l'hôpital d'Ostala, c'est l'argent de ces retraités. Est-ce qu'on ne pourrait pas revoir la solution de ces retraités-là, par exemple, élever leur pension au niveau du SMIG? Merci.
Je vous en prie, c'est une préoccupation vraiment pertinente. Hein, c'est l'argent des travailleurs, notamment des retraités, qui est à la caisse. Et ces travailleurs, ces retraités, voudraient pouvoir avoir les moyens de profiter des infrastructures, hein, des prestations que leur argent offre. C'est légitime. Et nous leur souhaitons de trouver les canaux, de poser les problèmes et de se voir rétablis dans leurs droits légitimes. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour Sasgao, bonjour le plateau.
Oui.
C'est Richard depuis Copenhague.
Nous vous écoutons, Rami Richard, depuis le Danemark.
Oui, j'aimerais réagir sur le sujet Podro.
Oui.
J'aimerais poser cette question. À qui profite ce genre de mensonge? Je ne sais pas à quel... Vous parlez de la Suède. La Suède qui respecte les droits de l'homme. Notre grand-père, notre papa est venu ici en tant que réfugié. Il a un titre. Il a un titre de réfugié. Il n'est pas n'importe qui. Il y a le Rome qui est à côté. On ne peut pas écouter. On sait bien comment la politique se mène, mais arrêtons de mentir la population. Il y a une forte la diaspora togolaise en Suède, elle est très forte. Moi-même, j'ai ma maison en Suède. Même s'il faut qu'on dise que non, le monsieur est dehors, on pouvait l'accueillir. Mais on parle de la Suède. Mettre quelqu'un dehors, ce n'est pas bien pour les droits de l'homme.
Eh bien, Richard, vous estimez qu'il y a un certain mensonge dans ce montage qui circule sur les réseaux sociaux?
Si! Vous parlez de la Suède, il a quitté le Togo, il a eu un visa. Merci.
Je vous en prie. Si nous en parlons, c'est que les évêques du Togo évoquent le cas Podro. Monseigneur Bariga le mentionne dans sa dernière adresse à l'endroit des laïcs. Monseigneur Bariga même fait allusion aux mêmes vidéos. Hein, c'est ce qui fait que nous en parlons. Merci de nous compléter quand même, Richard, avec votre point de vue. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô, bonjour, Charles.
Oui.
Monsieur Gadou.
Monsieur, nous vous écoutons.
Oui, vous savez, les propos du maire Aboka, je suis d'accord avec lui.
Mm-hmm.
Si je commence à l'appuyer maintenant, vous allez me couper. Je vous dis que le terrorisme, c'est la France. Vous savez, les chefs d'État africains ne meurent pas de leur propre mort. Exemple, Lumumba, même Déby, même Ronlis, la liste est longue. Donc, soutenons le président pour qu'il les pays sahéliens pour que cette affaire soit terminée. Mais pour Monseigneur Spojo, vous voyez, il est manipulé. Quand moi, je peux mettre pied ici au Togo, personne ne va lui faire du mal. Il est maltraité par les autres. Merci.
Je vous en prie, l'ami Gado. C'est ça le club de la presse. Chacun y va avec son point de vue, son observation. Le suivant, bonjour.
Oui, bonjour, Canal FM.
Oui, c'est monsieur.
C'est monsieur Serge depuis Adakpame.
Monsieur Serge.
Depuis
Adakpame. Ok, nous écoutons.
J'aimerais intervenir à la libération de vos confrères, Jérôme Sossou c'est Anani Sossou et Loïc Lawson.
Oui, Anani Sossou.
Oui. Bon, j'aimerais poser une question à vous, les journalistes. Dans un pays, on a volé. Et quelqu'un qui a dénoncé qu'on a volé se retrouve en prison. Et où est la place de celui qui a volé? Celui qui a dénoncé est en prison et celui qui a volé se promène allègrement.
Non, d'après ce que nous savons, suite au vol, le ministre a porté l'affaire devant la gendarmerie de Zio, de Thiévier, qui aurait mis aux arrêts, qui aurait arrêté les voleurs. C'est les éléments à notre connaissance.
Ok. Et j'aimerais intervenir au niveau de vous, les journalistes. Mm-hmm. Par exemple, Ari Miao Tchandiao parlait, lorsqu'on a évoqué le sujet du terrorisme, qu'il y a des topos au niveau de la population qui fait rentrer le terrorisme. J'aimerais dire que c'est comme ça, il y a des topos dans vos corporations qui font que au micro, ils disent autre chose, mais dans les coulisses, c'est autre chose. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on dise d'habitude que l'union fait la force. Il faut s'unir pour revendiquer vos droits et dire autre chose au micro et autre chose dans les coulisses. C'est ça qui fait que vous ne valez rien devant nos autorités. Il faut que ça s'arrête.
Non, là, je puis vous démentir. Nous valons quand même devant les autorités comme nous valons auprès de vous. Bon, les taupes, mais il se peut qu'il y en ait malheureusement dans nos rangs. Mais malheureusement, les taupes, on les trouve partout. Dans tous les corps de métier, on en trouve partout. Et c'est ça qui fait notre malheur. Merci beaucoup. Au suivant, bonjour.
Oui, bonjour, Sam.
Oui.
Johannes.
Vous préférez Johannes à Comla?
Non.
Ok, en toute liberté, allez-y quand même.
Comment, Johannes?
Ok, allez-y.
Voilà. Je vais juste dire à M. Tchanyao que ça fait 10 ans que la question des régimes sociaux est en projet dans ce pays. Ça fait 10 ans qu'on dit que c'est en projet. Je ne sais pas depuis combien de temps lui-même il parle de ça comme projet, mais un projet est censé être réalisé. On ne peut pas avoir un projet pendant 10 ans qu'on ne voit jamais le début et qu'on continue encore à parler de projet en 2023. Comment se fait-il que ce soit seulement des logements de luxe qu'on construit dans ce pays? Avec les logements sociaux, on n'en voit rien. Ça prouve que les dirigeants n'ont aucun souci pour la population. Les pays dans lesquels les dirigeants se soucient de la population, dans un pays, vous allez voir des logements sociaux poussés. Merci et bonjour.
Je vous en prie. Vous avez en partie raison. Les logements sociaux, ça fait de nombreuses années qu'on en parle. Et ça s'apparente à une Arlésienne. On en parle avec chaque ministre. ADJ vient d'en parler alors que Tcholignanou en a parlé longtemps. Avant Tcholignanou, c'est nous. Mais vivement que ces logements, ces fameux logements sociaux prennent corps, que nous puissions les toucher et aller l'acheter avec nos pauvres ressources. L'auditeur suivant, il va être le dernier. Bonjour.
Bonjour, monsieur Tass.
Oui.
Je salue vos collaborateurs sur le plateau.
Nous vous saluons en retour, c'est monsieur.
C'est pour encourager notre archevêque. Parce que ce qu'il dit vraiment, tu t'es rassuré que nous l'avons dans nos prières.
Vous parlez de quel archevêque?
Je parle de Pedro.
Ah, ok.
Donc, vivement que les autorités prennent la mesure qu'il faut pour qu'il revienne sur sa terre natale.
Mm-hmm.
Mais il y a une précision que peut-être nous oublions. Il est conscient que qu'en étant au Togo, personne ne pouvait toucher à son cheveu. Mais c'est à cause de lui que Gabriel a quitté le pays.
Gabriel Agbeyome Kodjo. Oui.
C'est lui qui l'a pris comme candidat. Donc il faudrait que les autorités pensent à son retour aussi. Sinon, le patriarche risque de refuser, hein, et de préférer mourir à l'étranger que de revenir sur sa terre natale.
Mm-hmm.
Il faut que les autorités y pensent. Merci. Gabriel doit revenir sur le pays, s'il vous plaît.
Merci. C'est pourquoi nous avons interpellé les amis politiques aux côtés de qui Podro s'est engagé dernièrement. Et c'est Didier qui a résumé que la politique, c'est vraiment plus compliqué avec toutes ces... je ne sais pas comment le dire. C'est très compliqué, mais vivement que le bon sens puisse quand même habiter les uns les autres et que ce cas social soit résolu. Merci beaucoup à ces auditeurs qui ont abordé divers sujets. Nous revenons, c'est une tradition, faire un rapide tour pour vos mots de la fin. Harry Miaou?
Non, bon, j'ai été peut-être par des temps interpellé. Il y a quelqu'un qui disait qu'il ne faut pas que les journalistes viennent au micro tenir un langage et puis après tout faire autre chose. Je crois que j'ai eu la chance d'être un responsable d'association, d'une organisation patronale de presse, d'ailleurs, que je dis avec fierté, la plus représentative dans le pays. Et je connais trop les journalistes togolais. Peut-être que ce sont les Togolais qui ne connaissent pas les journalistes togolais. Et les loups, parfois, portent les peaux d'agneau et les gens croient que c'est eux les bons. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je me dis qu'on se connaît très bien. Jean-Baptiste Attisso qui a parlé, je le connais, il me connaît. Et nous savons ce que chacun de nous sait faire. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des situations que d'autres vont se servir des micros pour jeter l'opprobre sur les autres. J'ai dit, on se connaît. Si demain j'ai des situations, les gens me connaissent. Si un autre en a aussi, on se connaît. Et puis revenons sur la question qui nous oppose, puisque Jean-Baptiste avait dit quelque chose, j'avais envie de réagir, vous ne l'avez pas permis. Mais je voulais dire que nous avons une loi que nous-mêmes nous maîtrisons. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on ne connaît pas nos tests. Et si nous sommes en train de travailler à ce qu'on corrige ces tests, ça veut dire que nous sommes conscients nous-mêmes. Et je ne crois pas qu'il y ait un seul responsable d'organisation professionnelle dans ce pays qui n'ait pas entamé de négocier qu'on revoie notre code. Et tant qu'on n'a pas encore corrigé le code, nous devons savoir qu'il y a une loi qui nous régit. Et c'est par rapport à cette loi que nous travaillons. Mais dire que les responsables patronales ou les responsables d'associations ne font absolument rien, j'ai dit non. Les gens travaillent comme ils le peuvent, vice versa. Et on ne peut pas accepter qu'on dise que les responsables d'associations ou un journaliste togolais ne compatit pas quand un autre est en situation. J'ai dit, vous aurez sous d'autres yeux, les gens vous diront d'autres choses que ce que vous racontez.
Merci, merci.
Donc
beaucoup,
il ne faut pas qu'on s'insulte à la population et que les gens se servent de ça pour nous narguer. Voilà un peu ce que je voulais dire.
Merci, merci. Didier Assogba, je rappelle que le tour, c'est une minute chacun.
Oui, naturellement, on revient sur les mêmes sujets, mais je pense fondamentalement que tu as déjà repris mon résumé, je reviens là-dessus. Moi, je pense que dans un pays, il faut des fois, tu as parlé de fierté, mais moi, je parle d'orgueil national. Il faut un sursaut d'orgueil sur des sujets et des questions données, sans quoi on ne pourra jamais arriver au compromis. Certains parleront de consensus. Je pense que c'est sur des sujets qui clivent les situations où qu'on peut souhaiter les uns les autres, c'est qu'on arrive à des compromis ou qu'on arrive à un consensus au meilleur des cas. Et donc je pense que comme on voit dans la sous-région un peu partout au Bénin dernièrement, les discussions avec entre le chef de l'État et ses opposants, on pourra également trouver des choses ici comme ça, trouver un mécanisme pour que des sujets qui datent déjà de plus de 3 ou 4 ans, on trouve un moyen de les régler dans le cas soit des discussions ou soit dans le cadre de campagne d'amnistie. Je ne maîtrise pas la revendication des autres, mais si nous voulons régler cette histoire de Monseigneur Kouadjo et des autres, l'Église catholique est impliquée, la société togolaise est impliquée, sa famille, l'État togolais, parce que Monseigneur Kouadjo, je pense que c'est un ancien président de l'Assemblée nationale, il la rend protocolaire donc dans les institutions de la République comme ça. Trouver un moyen, comme les uns les autres le souhaitent, comme moi j'ai dit, si le chef de l'État y met sa volonté personnelle, cette histoire sera rapidement réglée, peut-être avant la fin de l'année, au pire des cas, et on n'en parlera plus, peut-être on en parlera de meilleure façon, en saluant le chef de l'État, en saluant les actions du gouvernement. Je pense que c'est le moment, il faut que les uns les autres capitalisent sur cette affaire-là pour que ça ne serve pas d'autre
sujet.
Merci
beaucoup, avec la conviction que les bonnes volontés arriveront à convaincre Monseigneur Kouadjo de revenir terminer ses jours en paix au Togo. Jean-Baptiste?
Oui, je crois que l'essentiel a été dit. Et ce que nous pouvons rajouter, c'est que l'Église catholique a beaucoup à jouer dans ce qui arrive à Monseigneur Kouadjo. Je crois que la diplomatie de l'Église doit être mise en branle pour que dans les brefs délais, dans les meilleurs délais, que Monseigneur Kouadjo puisse retourner, regagner le pays et vivre ses derniers jours en paix. C'est ce que nous pouvons souhaiter et peut-être ajouter à ce que le chef de l'État, au-delà de tout, joue réellement un franc jeu pour que la précarité dans laquelle les Togolais vivent, végètent, trouve une solution. Parce que moi, je le dis, on ne peut pas se voiler la face, les Togolais souffrent. Les Togolais souffrent et la gestion du pays, le panier de la ménagère souffre de sa gestion. Il faudrait que réellement, il ne faut pas jouer à la politique de l'autruche. Les Togolais souffrent.
Merci beaucoup. Yao Olivier Adja.
Non, la situation de Monseigneur Poudro est une situation très lamentable et alarmante. Et il faut prier pour Monseigneur Poudro et l'aider, les bonnes volontés, les Togolais en Occident comme donc ailleurs, qu'ils volent à son secours. Moi, je me pose la question, quel est le statut de Monseigneur Poudro aujourd'hui en Suède? S'il a un statut de réfugié, je sais qu'il y a quand même des prises en charge, d'accord, pour les réfugiés. Et aussi, dans ces pays-là, en temps d'hiver, il y a des lois qui interdisent d'expulser des gens donc, de leur maison. Donc, je suis un peu surpris que Monseigneur Poudro se retrouve dans la rue, dans un pays comme la Suède, un pays des droits de l'homme, un pays donc, où vraiment qui ne lésine pas avec ces gens de loi. Alors, en temps d'hiver, donc, il y a quand même des faits qui laissent à poser des questions sur ce qui se passe autour de Monseigneur Poudro dans ce pays. Maintenant, l'autre fait, c'est que c'est pour la presse. Je crois que la confraternité doit être dans tous les sens. C'est-à-dire, un confrère ne peut pas se lever, écrire, s'utiliser les réseaux sociaux ou c'est les colonnes de son journal pour attaquer d'autres journalistes. Ça se fait. Et pas dans le sens que nous imaginons, d'accord. Donc la confraternité devrait normalement être de façon transversale et concerner tout le monde. Et puis les organisations de presse font déjà leur travail qu'il faut. Et il ne faut pas imaginer que la presse doit être unie comme les cinq doigts de la main. Ça n'existe pas comme dans toutes les corporations. Il y a des divisions, mais il y a des choses
merci
qui nous unissent. Il y a des faits qui pourraient nous unir.
Merci beaucoup. Eh bien, dans cette grisaille, il y a quand même des éclaircies. C'est pourquoi le club de la presse, solidairement, nous adressons deux cartons verts. Le premier carton vert, c'est... S'il vous plaît, nous sommes à la fin. Le premier carton vert va à notre ami, s'il vous plaît, Jean-Baptiste. Le premier carton vert va à Benjamin Larré, le président de Fouadan de Dapaon. Ce club qui ambitionne de monter en première division et le président, entre-temps démissionnaire, mais qui est retourné au poste avec beaucoup d'amour, vient d'offrir un bus à son club, Fouadan Dapaon. C'est une action louable qu'il faut féliciter. Le deuxième carton vert va à l'ONG, l'association Solidarité Fertile, le salon Ferrin, Terreau Fertile, pardon, qui nous a rassemblés le 3 décembre dernièrement et qui se réjouit que de bonnes volontés continuent de lui acheminer leurs dons. Un total de 2 842 000 francs CFA qu'il a réceptionnés et qui vont être répartis sur les trois projets, à savoir offrir un scanner à un centre de santé, prendre en charge des femmes dans leur autonomisation et également aider à sortir des enfants en situation de rue, de la rue justement, pour qu'ils deviennent normaux. C'est fini pour aujourd'hui. L'émission vous retrouve demain mardi à 11h si Dieu le veut, et prions que Dieu le veuille.